m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Oui, bienvenue sur Radio Courtoisie, bienvenue sur Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, animée aujourd'hui par votre serviteur Richard de Sèze et demain par Richard de Sèze et après-demain, non, on change heureusement, par Arthur de Vatrigan et ensuite Marc Hainaut et après Marc Baudrier, puisque c'est une émission en partenariat avec Valeurs Actuelles, avec L'Incorrect, avec Boulevard Voltaire et avec Le Monde Moderne, dont... Alexis Poulain, ici présent par Zoom, est l'éminent fondateur, représentant, animateur, directeur de la comptabilité, chargé des ressources humaines. Voilà. Bonjour Alexis Poulain.
Bonjour.
Alors, nous allons être rejoints par Xavier Van Lierde, qui lui aussi est une entreprise à lui tout seul, et nous allons parler ce soir, évidemment, de la mort de Quentin. Nous en parlerons un tout petit peu au début de cette émission, et ensuite en deuxième partie avec Céline Kléber, l'auteur d'un roman policier Douce France, qui décrit la manière dont la France est en train de basculer dans l'islamisme et peut-être la guerre civile. Ça, c'était le tome 1, donc le tome 2 nous dira, qui est censé paraître cette année, si véritablement la guerre civile a éclaté ou pas. Ce qui était très intéressant dans l'ouvrage de Céline Kléber, c'est la manière dont on vivait de l'intérieur toutes les compromissions de l'ensemble de l'administration et des politiques par rapport à une situation explosive du début, dire le meurtre d'un prêtre catholique par un immigré. On voit à quel point Céline Kléber est allée chercher dans des endroits absolument inconnus de la raison et de la réalité la source de son inspiration. Après avoir rapidement évoqué Quentin, nous passerons évidemment à l'affaire Epstein. Il ne faudrait pas qu'on laisse tomber le soufflet. Et c'est une affaire qui est très loin d'être terminée, même si la justice française a plus ou moins essayé de l'enterrer. Nous parlerons bien sûr des agriculteurs et donc nous parlerons de la désindustrialisation, puisque voilà, si pâturage et labourage étaient les mamelles de la France, eh bien l'agriculture et l'industrie étaient les mamelles de la France contemporaine et moderne. Et justement, manque de peau, Emmanuel Macron a achevé l'ouvrage entamé par François Hollande, Nicolas Sarkozy et tous ses glorieux devanciers. Restons courtois, voilà, donc avec Alexis Poulain et Xavier Van Lierde qui nous a rejoints. Pourquoi est-ce qu'on va évoquer, pourquoi va-t-on évoquer rapidement Quentin? C'est parce qu'il y avait une manifestation en hommage à Quentin, une marche en hommage à Quentin qui a eu lieu samedi à Lyon. Et la presse nous annonçait qu'il allait y avoir bien sûr des débordements. Grégory Doucet qui supporte la jeune garde et même qui favorise la jeune garde. L'un des conseillers municipaux de la ville de Lyon a expliqué en 2022 qu'il collaborait étroitement avec la jeune garde et le planning familial dans la prévention des violences. Évidemment, c'est un peu ironique de travailler avec ceux qui frappent pour prévenir les violences. Mais évidemment, c'était un élu de gauche et on comprend qu'il y a les bonnes violences et les mauvaises violences. La bonne violence, c'est la jeune garde qui met en fiche les militants de droite et qui après va leur casser la figure. Et la mauvaise violence, ce sont les militants de droite qui se défendent. Et effectivement, ça, c'est une très mauvaise idée, ou qui manifestent. Et en démocratie, manifester, c'est un peu quand même faire en sorte qu'il y ait de la liberté d'expression. Et comme on le sait, depuis que le président Macron l'a exprimé d'une façon vigoureuse, free speech is bullshit, la liberté d'expression, c'est des conneries. Traduction la plus exacte possible. J'ai demandé à plusieurs intelligences artificielles, j'ai demandé à des sites aussi sérieux que DeepL de me traduire. À chaque fois, le bullshit a été traduit par conneries. Donc, qui suis-je pour aller à l'encontre de l'intelligence artificielle qu'Emmanuel Macron favorise de tous ses voeux et appelle, en tout cas, de tous ses veut parce qu'il la favorise à petits coups de dizaines de millions d'euros, étant donné que c'est à peu près la somme que dépense OpenAI toutes les 10 minutes. On n'est pas absolument certain que ce soit une vraie faveur que Emmanuel Macron fasse à l'intelligence artificielle. Je m'égare. Alexis Poulain, avez-vous suivi cet hommage, cette marche en l'honneur de Quentin? Qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous de la manière dont la presse en a rendu compte?
Comme d'habitude, alors c'est une marche qui s'est passée sans violence, hein, même si elle était sous haute tension. La veille, on se rappelle, Laurent Nunez, hein, à l'intérieur, qui expliquait qu'il y avait quand même un dispositif particulier qu'il ne voulait pas révéler. Mais je crois que même si certains ont voulu envenimer la marche, il y avait quand même suffisamment de gens qui n'étaient pas forcément politisés, qui se sont simplement joints à la marche pour dire stop cette violence politique, tout simplement. Et donc, on peut uniquement se réjouir que cette marche soit très, très bien passée de cette façon-là. Après, la façon dont les médias en ont rendu compte, bon, bah, c'est toujours en fonction de la couleur des médias, hein. Vous aviez ceux qui disaient qu'effectivement ça s'est bien passé, et puis ceux qui disaient que quand même il y avait des éléments néo-fascistes au sein de cette marche et que c'était pas une, ça s'est pas bien passé. On a vu notamment une passe d'armes entre une élue ELV et une journaliste de France Info à ce sujet. Donc, pour moi, c'est heureux que cet hommage ait pu se faire et qu'il ait pu se faire dans la dignité et pas dans la violence. Voilà, c'était le plus important, je crois.
C'est heureux, mais ce n'est pas étonnant, car en fait, ce sont les manifestations organisées par l'extrême gauche qui généralement dégénèrent avec d'ailleurs le soutien actif des organisateurs qui sont ravis que le peuple de gauche se répande dans les rues et saccage les vitrines en expliquant qu'ils sont en train de lutter contre le capitalisme, alors qu'on a rarement vu une marche LR ou une marche RN qui se termine avec le mobilier urbain jeté en l'air.
Oui, on a vu aussi des manifestations dans l'histoire récente, des manifestations populaires à partisanes, à politiques, en tout cas à partisanes comme les Gilets jaunes, dégénérées en raison justement de l'intervention avec une certaine quand même bienveillance, je pense, du pouvoir, avec l'intervention donc de Black Blocs ou autres groupes affiliés Antifa, qui s'y mêlaient de façon à les faire dégénérer. Alors moi, je voudrais vous parler de cette manifestation parce qu'il se trouve que je m'y suis rendu. Et je suis en mesure de vous faire, de la relater sous l'angle chose vue. La première chose que je voudrais dire, c'est que les organisateurs eux-mêmes ont annoncé de 3000 à 3200 personnes. Je pense que c'était très largement au-delà. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont été extrêmement modestes. C'est une manifestation qui était, à mon sens, gigantesque, vu le discours qui était tenu, alarmant. C'est-à-dire que tout était fait pour décourager les gens dits normaux et pas militants de s'y rendre. Ça devait être un défilé néo-nazi avec des 1000 nazis venant de toute l'Europe.
Avec des coupes à la Raphaël Arnaud.
Voilà. Et on nous expliquait que nécessairement ça allait dégénérer, qu'il fallait quitter même les abords et le quartier tant tout allait être à feu et à sang. Alors évidemment, quand on a un père de famille indigné par la violence politique et par un meurtre, c'est pas exactement le genre d'endroit où on a envie de se rendre un samedi après-midi. Malgré tout, il y avait donc, à mon sens, entre 5000, 6000 personnes, et encore, je réfrène l'envie de dire probablement presque 10 000. C'était gigantesque, on ne voyait pas le début, c'est-à-dire que si on se mettait au milieu de cette manifestation, au cœur de cette manifestation, on ne voyait ni le bout d'un côté, ni le bout de l'autre, alors que les rangs étaient extrêmement serrés. Et donc c'est une magnifique réussite, et d'autant plus une belle réussite que cette manifestation a été organisée de façon spontanée par des jeunes, des amis de Quentin en l'occurrence. Et je pense que ça doit être souligné, c'est une manifestation qui était une marche d'hommage, plus exactement, parce que ce n'était pas une manifestation, une marche d'hommage organisée par ces jeunes-là, avec un vrai savoir-faire. Alors moi, je pense que ce savoir-faire, en fait, on le trouve dans le profil assez boy scout des organisateurs. C'est-à-dire, vous savez, dans la pédagogie scout, on apprend aux jeunes à s'organiser en autonomie, sans les adultes. Eh bien, c'est ce qu'ils sont parvenus à faire, et à mon sens, magnifiquement, et avec beaucoup de courage, car on ne le soulignera jamais assez, ces jeunes ont été laissés dans un isolement total. Ils n'ont pas été soutenus par aucun parti de droite. Aucun parti de droite n'a apporté son concours, ni même son soutien moral à l'organisation de cette manifestation. Certains ont même découragé, voire interdit à leurs membres de s'y rendre. Là, je cite bien évidemment le Rassemblement National. Et donc, je suis très heureux, en réalité, que cette manifestation organisée spontanément par ces jeunes et fonctionnés, qu'ils aient néanmoins rassemblé 5000 à 6000 personnes. Et comme le disait Alexis, dans ces 5000 à 6000 personnes, il y avait donc le noyau des organisateurs, en gros Quentin et les amis de Quentin, qu'on pourrait caractériser comme quoi, oui, des militants identitaires, catholiques, une ambiance un peu scout, syndicat étudiant de droite. Et puis autour de ce noyau, des gens de toutes sortes. C'était extrêmement hétéroclite, contrairement à ce que veut faire croire la presse. Et je voudrais saluer en réalité tous les gens qui se sont joints à cette manifestation avec beaucoup de courage, puisqu'ils ont bravé les craintes qui étaient agitées à la fois par les médias et par la préfecture. Ils étaient une minorité, mais en réalité, cette minorité constituait une élite civique, une élite de gens qui ne se résignent pas à ce qui est en train de se passer et qui voulaient marquer un coup d'arrêt et aussi témoigner de leur simple humanité à l'égard de ces jeunes qui étaient en deuil et de la famille de Quentin. Donc voilà, ça c'est le coup de chapeau de voir ces gens de toutes sortes, de tous milieux sociaux, de tous âges, se joindre à cette manifestation malgré les soi-disant dangers. Et enfin, parlons maintenant du traitement médiatique, comme vous l'avez souhaité, de cette manifestation, qui est absolument scandaleux. On a l'habitude, hein, c'est-à-dire que moi j'ai participé aussi à des manifestations de Gilets jaunes, le décalage entre ce qui se passait et la façon dont les médias en rendaient compte était absolument sidérant. Rappelez-vous d'ailleurs, déjà à l'époque des Gilets jaunes, il y avait eu plein d'articles disant « Ah, des saluts nazis dans les Gilets jaunes, dans les cortèges », pour essayer de les salir. Les mêmes méthodes ont été réutilisées contre cette manifestation. Pour y avoir été présent, je peux le dire, il n'y en a pas eu. Pareil qu'il y en a un, il y a un excité, peut-être un provocateur d'ailleurs. Ça existe, hein, les provocateurs qui sont introduits dans une manifestation pour faire de l'image. Un seul qui a aussitôt subi les foudres des gens autour de lui et du service d'ordre, et donc des organisateurs. Et ça devient, dans l'œil médiatique, au contraire, l'essence même de cette manifestation. C'est quand même assez gonflé.
Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse. Quand on pense au nombre d'insultes antisémites qui sont prononcées dans les manifestations organisées par LFI, sans que jamais la grande presse ne nous explique qu'il y a eu un ramassis d'antisémites en train de défiler par milliers et dans les rues de Paris, c'est cette disproportion dans le traitement où un élément perturbateur est censé symboliser l'intégralité de la foule, alors que dans les autres cas, des dizaines et des centaines d'insultes et de slogans et de pancartes antisémites brandies ne sont absolument pas représentatives de l'ensemble des gens qui manifestent. Fermons cette parenthèse.
Voilà, donc effectivement, ensuite les images de BFM, ce sont des gens qui font ce qu'on appelle un clapping, c'est-à-dire que selon une habitude acquise dans les stades, on tape dans ses mains en réalité pour créer un rythme et puis on dresse les deux bras vers le haut pour à nouveau taper dans les mains. Si on fait un arrêt sur l'image, on voit effectivement plein de bras qui sont au-dessus des têtes et on peut faire croire que ce sont des saluts. J'étais, c'était du clapping, c'est-à-dire les gens disaient « justice pour Quentin, clac, clac, clac ». Voilà.
Exactement, d'ailleurs, que dans la rhétorique antifasciste. Chamo, tutti, antifascisti, tac, 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 oui, voilà. Et donc c'est le même geste.
Exactement, c'est le même geste parce que c'est un geste qui permet de synchroniser un slogan. Toujours est-il alors,
je me permets d'affirmer que je ne suis pas un sous-marin antifasciste infiltré dans la rédaction de Radio Courtoisie, je ne viens pas de me dévoiler. Voilà, c'est...
Oui, si on faisait un arrêt sur image, on pourrait obtenir que vous soyez viré. Et donc, par ailleurs, j'étais témoin d'un autre incident, c'est celui qui permet aux journalistes de prétendre qu'il y avait, disent-ils, des slogans racistes et homophobes. Alors, c'est assez, il se trouve que j'étais pile à l'endroit où ça s'est passé, car ils disent ça suite à un témoignage du journaliste du Figaro, Paul Sugy. Il se trouve que nous étions tous les deux juchés sur le même plot en béton lorsque ça s'est produit. Alors, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé, et pour faire comprendre aux auditeurs, et peut-être au-delà, j'espère, qu'il ne s'agissait en aucun cas de slogans racistes ou homophobes, mais des faits suivants. Il se trouve que tout au long de ce parcours, plusieurs petits groupes, mais spécialement un de racailles surexcités, remontaient ce cortège et venaient le harceler, non pas par des violences, mais par des danses obscènes, des gestes obscènes, se réjouissant bruyamment de la mort de Quentin, se moquant du deuil des participants, en ondulant comme dans une sorte de danse du ventre, provoquer les participants en disant « Viens, viens, t'es pas cap, en fait, tu... » Et donc, dans leur bouche à eux, il y avait des insultes sur le thème « espèce de PD, t'as pas le courage de venir, viens, viens », dans cette sorte de démonstration absolument infâme, prononçant sans cesse que Quentin l'avait bien cherché, que c'était bien fait, qu'il s'en réjouissait. Au passage, ces gens ayant été filmés, on a découvert que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles difficile de savoir, parce qu'il y a une capuche, avait un cutter glissé dans sa manche. Donc voilà l'ambiance de ce petit groupe qu'on laisse durant l'ensemble de la manifestation. C'est-à-dire qu'à aucun moment le service d'ordre qui prévient les forces de police présentes, pas si présentes que cela d'ailleurs, hein, présentes, leur demande de les interpeller et de les exfiltrer plus loin pour que ça ne dégénère pas. Et en réalité, du début jusqu'à la fin, ils ont été là. Ils ont été là, donc dans
merci Laurent Lugnez.
Voilà, dans cette attitude de moquerie vraiment absolument obscène et effroyable. Et à un moment, l'un des manifestants a craqué. Et a donc répondu quelque chose du style « pédez toi-même », puisque c'était la rhétorique de ce groupe, c'était genre « puisque tu ne viens pas me casser la figure, ça veut dire que t'es un pédé, t'es une fiotte, t'es pas cap, t'es pas viril, c'est moi le plus fort ».
Ce côté viriliste, effectivement,
voilà,
de la racaille
voilà,
de banlieue.
Voilà
mais...
Et donc, Paul Sugy, en toute bonne foi, rapporte cet événement et s'est transformé par ses confrères journalistes en des slogans homophobes, comme si la foule entière défilait en disant « dehors les sales pédés ». Rien à voir. Et de la même façon, donc ce petit groupe étant constitué de maghrébins, au même moment, un autre a dit « vraiment, vous n'avez pas de face, quelque chose du genre, vous êtes des... Quelle sale race, vous n'avez pas de face !» Mais c'était au bout d'heures d'harcèlement où on se moquait de leur deuil, où ces gens dansaient en se réjouissant. Donc c'était pas du tout une ambiance
On le voit très bien d'ailleurs, parce que...
C'est une altercation entre des gens qui sont des provocateurs absolument ignobles et auxquels, par facilité ou énervement ou perte de contrôle, plutôt que de leur dire, comme ils auraient dû certes le faire, dire « espèce de sale connard, respecte nos morts », eh bien, il craque en disant, vraiment...
Ok, on a voilà. Compris, ça sert à rien de le répéter.
C'est consternant, vous voyez. Donc, de ces faits absolument minuscules et bien compréhensibles, qui ne perdrait pas son sang-froid dans ce genre de circonstances, je précise que non seulement ce petit groupe n'est pas exfiltré ou arrêté par la police, mais que par ailleurs, il est suivi par une nuée de journalistes qui, à aucun moment, ne considèrent que leur provocation... mérite d'être relaté. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un événement, ça ne mérite pas d'être filmé. En revanche, les caméras et les appareils photos sont braqués sur la foule qui est provoquée dans l'attente de l'incident, bien entendu. C'était comme une fabrique en direct, la fabrique du mensonge. Vous voyez ? Pour moi, sincèrement, c'est extrêmement douloureux de devoir même le restituer. Parce que j'y vois une injustice tellement effroyable, tellement dégueulasse, de voir ensuite la préfecture expliquer que ces gens seront poursuivis, alors qu'ils ont laissé les provocateurs pendant 3 heures faire leur cinéma, je me dis, en fait, je ne cesse d'y penser depuis, en réalité. Je pense aux deux pauvres gars qui ont craqué à un moment, qui seront peut-être poursuivis pour de bon, parce qu'aujourd'hui, vous savez, une parole malheureuse, c'est beaucoup plus grave que des violences physiques. Mais je pense aussi au mal que ça fait au pays et à sa cohésion. Je pense à ces gens qui vont se dire que désormais, en réalité, ils ne peuvent plus jamais croire un média. Et ils ont raison, du reste. C'est-à-dire qu'on abîme terriblement à la fois la confiance qu'on peut avoir dans des institutions quand même centrales dans la vie démocratique que sont les médias, gros médias, menteurs. C'est-à-dire que là, il y a 3000 personnes qui savent que désormais, quoi qu'ils disent sur quelque sujet que ce soit, ils vont devoir les mettre en doute. Mais aussi... plus grave, que la préfecture s'en empare et soit complice de cette manipulation. Comment voulez-vous que les relations soient apaisées dans ce pays? Comment voulez-vous que le peuple respecte encore ses institutions? Comment voulez-vous qu'ils disent « je crois en la justice de mon pays » Comment voulez-vous qu'ils croient dans la République et dans la préfecture? Tout est détruit par ce type de comportement. Ces gens croient avoir fait un bon coup, oui, peut-être à court terme, mais en réalité, ils abîment terriblement et le pacte social et les institutions et tout ce qu'on peut ressentir au fond de soi. Ils cassent quelque chose et c'est très grave en réalité d'agir comme ça. Ils causent des dégâts, ils devraient vraiment réfléchir à ce qu'ils font. Tous les journalistes qui ont fait ça étaient présents, ils attendaient cet incident, ils ont vu ces provocations. Et ils préfèrent quand même se livrer à cela. Mais si on additionne le nombre de Français comme ça, qui au fil des événements de leur vie constatent ce type de manipulation, mais ils sont des millions désormais à ne plus avoir confiance, c'est un corrosif terrible pour la société. Moi, je connais des tas de gilets jaunes qui ne font plus confiance aux médias et à BFM. Maintenant, je vais connaître probablement 3000 jeunes qui sont des jeunes bien et d'autres manifestants qui vont se dire « Décidément, on est vraiment dirigé par une bande de salopards. » Voilà. et qui auront probablement raison de le penser, même si c'est conjoncturel, c'est pas toujours le cas. Ceux qui étaient là seront fondés à penser cela. Et c'est triste, en réalité, c'est très triste.
Alexis Poulain, une réaction avant qu'on change de sujet ?
Oui, c'est exactement ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, où de nombreux citoyens, et moi j'ai fait plusieurs actes, on avait affaire à des personnels soignants, des retraités, des étudiants, toute la société était là, des gens, des citoyens, qui étaient traités comme des séditieux quand on allumait la télé le soir, parce qu'effectivement, quelques éléments violents avaient emmené le cortège vers plus de violence. Et derrière, tout la façon dont les médias ont traité les Gilets jaunes était sous cet angle de la violence et pas sous l'angle en fait d'un mouvement social inédit en dehors de tout cadre syndical ou politique, mais qui montrait le citoyen politique enfin qui se réveille et qui s'engage. Et quand on vit la manifestation de l'intérieur, on n'a pas du tout la même expérience que quand on la regarde à la télé ou qu'on voit les rapports qu'en font la presse le lendemain. Et la deuxième chose qui est tout à fait similaire, c'est la façon dont les forces de police, parce qu'elles reçoivent des ordres, hein. Là encore, c'est le commandement qu'il faut pointer du doigt, ne sont pas là forcément pour sécuriser les manifestations, mais pour les pourrir d'une certaine façon ou pour en cueillir le fruit pourri. Et donc dire que derrière, il y a eu beaucoup d'arrestations, qu'ils étaient là finalement quand il fallait, alors qu'en fait, on voit très bien les mouvements de foule, notamment des Black Blocs, qui sont très visibles, qui ont quand même un certain champ avant d'arriver au carton, de commencer à brûler du mobilier urbain, par exemple, des choses comme ça, et la police qui est en retrait, qui attend les ordres. Et ça, c'est systématique quasiment. Et donc, ça ne m'étonne pas. Et puis après, vous avez toute cette presse qui attend évidemment le faux pas, les chauffourées pour dire « Regardez comment ça s'est passé, c'est terrible ». Et je crois que oui, ça fait énormément de mal au pacte social. Surtout que finalement, tout ce qui reste au parti unique, c'est de dire que l'arc républicain, maintenant, c'est tout sauf les extrêmes. Et il y a de plus en plus d'extrêmes, d'une certaine façon. Et ça va devenir compliqué de faire de la politique sur cette base-là, qui est quand même globalement une base de mensonges et de manipulations.
Alors, puisque vous parlez d'arc républicain, c'était pas un sujet qui était prévu aujourd'hui, mais j'ai lu ça tout à l'heure et je suis, comment dire, absolument enthousiasmé. Aurore Berger a demandé aux candidats du Rassemblement National de se retirer dans certaines élections municipales à venir pour éviter que le candidat LFiste ne soit élu. Donc, Aurore Berger propose au Rassemblement National de participer à un front républicain à sens unique. C'est-à-dire, personne ne se retire pour permettre au candidat du RN de gagner, mais en revanche, le candidat du RN se retire pour éviter que LFI ne gagne. Alexis Poulain, que pensez-vous de cette idée brillante de la passionnariat des ONG gauchistes censés nous apprendre à bien penser ?
Alors, elle n'est pas vraiment des ONG gauchistes.
Ah non, je parle de ce qu'elle est en train de bricoler avec l'ARCOM pour faire en sorte d'avoir des vigilants qui nous écoutent.
De toute façon, elle, c'est la dame censure de la République. Elle fera carrière comme ces commissaires politiques qu'on a connus, les Beria et autres, dans d'autres régimes. Mais Aurore Berger, en réalité, ce qu'elle fait là, c'est un piège, et j'espère que le Rassemblement National ne tombera pas là-dedans, de faire croire que parce qu'une alliance de façade va éviter des candidats insoumis de gagner, alors le RN gagnerait en respectabilité. Il perdrait en réalité toute crédibilité. Et on voit bien que le but du parti unique, c'est vraiment de ce que j'appelle le parti unique, c'est-à-dire les partis dits de gouvernement, que ce soit les socialistes, LR, les centristes, macronistes et assimilés, c'est de tout faire pour montrer l'autre comme quelqu'un qui n'a pas le droit de jouer au jeu politique. Et c'est en ça que ça rejoint encore une fois l'émergence du citoyen politique qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, où les gens y allaient sans mot d'ordre et sans parti. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de contraction qui est terrible, où le champ politique se réduit. Ceux qui ont le droit de jouer ne sont pas très nombreux. Et maintenant, on va tout faire pour éliminer alors qui sur cause d'antisémitisme, qui sur cause de violence, qui sur cause de racisme, qui sur cause de... Ça va dans le sens de ce que disait Macron sur rendre inéligibles des gens qui auraient eu des propos racistes ou antisémites. Bon, bah, Emmanuel Macron n'aurait pas pu être élu en 2022 après sa sortie sur les Kwasa-Kwasa et les Mamadou aux urgences. Voilà, c'est de ce niveau-là. Donc, Aurore Berger, bon, ça va, personne ne la prend au sérieux, mais ça montre un climat et une certaine stratégie de ce parti centriste qui voudrait totalement dépolitiser ce pays, en réalité, qui est un pays qui, j'espère, reste politique, au sens noble du terme.
Xavier Van Lierde, voilà, on a exécuté rapidement Aurore Berger. Un mot de commentaire, et puis après, on parle des agriculteurs.
Oui, mais moi, je pense tout à fait que c'est... Je pense tout à la fois qu'il y a une extrême gauche extrêmement violente et qu'elle a la tentation de mettre hors jeu ses adversaires par la violence, notamment dans des lieux déterminés comme les facultés ou autres, c'est-à-dire exercer des pressions physiques contre tous ceux qui ne pensent pas dans son sens. Mais je vois tout à fait aussi le jeu du pouvoir ou du régime, je ne sais plus comment il faut l'appeler, et qui consiste à essayer de créer une sorte de nini, c'est-à-dire, voilà. En prétendant que tous ceux qui ne sont pas sur sa ligne, européistes, mondialistes, grands, placistes, etc., sont des extrêmes, et que, comme l'a dit Alexis, ils n'ont pas voix au chapitre parce que ils ne sont pas dans le cercle de la raison. Évidemment, il ne faut pas tomber dans ce piège-là du tout. Et c'est quand même réellement ça l'ambiance. C'est-à-dire que quand Berger dit cela, il y a aussi comme on est quand même dans un moment assez particulier où effectivement on dit que tel ou tel candidat ne pourrait pas se présenter parce qu'en fait il a eu tel ou tel propos, c'est quand même extraordinaire. En fait, on labellise les propos pour savoir qui a le droit de se présenter. Enfin, c'est vraiment un raisonnement totalitaire. Mais les mêmes expliquent que il faut labelliser la presse. C'est-à-dire qu'il y aurait la bonne presse, celle du régime, et puis la mauvaise presse, comme nous, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne serait pas labellisé. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas l'imprimatur de ces gens-là. Tout ça, c'est quand même... même les exprimer, qu'ils aient l'idée de l'exprimer, même sans le faire, c'est déjà extrêmement inquiétant. Ça montre un pathos totalitaire. Voilà, on peut pas dire mieux. Maintenant, je suis un peu déçu quand même pas déçu parce que je m'y attendais, mais par l'attitude du Rassemblement National qui a rejeté dos à dos, c'est-à-dire qui a un peu lui aussi dans le ni ultra-droite, ni ultra-gauche, dans une tentative un peu désespérée de se dire que s'ils disent ça, peut-être que du coup, on les intégrerait dans le cercle de la raison. Ouais. J'y crois pas du tout, je pense que quand ils agissent de la sorte, en réalité, ils ne font rien d'autre que légitimer ceux qui les condamnent. Il ne faut pas légitimer ceux qui vous condamnent. Il faut les combattre frontalement. C'est une, à mon avis, une très grave erreur politique. Quand on légitime ceux qui vous jugent et qui vous condamnent, eh bien, on leur laisse toute latitude. Après un instant où ils vous octroient un petit brevet, ils peuvent très bien le reprendre. La légitimité, c'est pas le pouvoir et le régime qui doit la donner, c'est les Français. Voilà. Et c'est ça qu'ils doivent se dire. Leur légitimité, elle vient du vote des Français, pas des brevets que peuvent donner les uns ou les autres. C'est ce que nous faisons en tant que médias Radio Courtoisie. On n'attend pas d'être labellisé. Et un parti politique d'opposition ne doit pas attendre d'être toléré ou labellisé par son adversaire du régime. C'est quand même lamentable. Un enfant de 5 ans comprendrait ça, bon sang.
On peut remarquer d'ailleurs que Manuel Bompard, Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon continuent à marteler jour après jour deux choses. Un, la jeune garde est absolument impeccable. Deux, LFI n'a absolument rien à se reprocher. Donc, ils ont quand même un député dans leur camp, dans leur rang, sur les bancs de l'Assemblée nationale, qui a inventé une milice violente qui est destinée à faire taire l'opposition, milice qui a terrorisé une candidate dans Avignon, qui a du coup quitté Avignon tellement elle a eu peur à cause des agissements de Raphaël Arnaud et de ses nervis. Et ce député-là fait et rentre à l'Assemblée nationale, auréolé de la gloire de la jeune garde. La jeune garde qui était présent sur les programmes, notamment le site du programme de LFI, où la jeune garde faisait partie des soutiens de LFI, des membres de LFI se réclamaient encore de la jeune garde avant que la mort de Quentin ne soit officialisée. Et ces gens-là sont droits dans leurs bottes. Ils ont absolument raison. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils le disent. Et d'ailleurs, les journalistes leur tendent le micro et rares sont ceux qui les contredisent. Mais on a effectivement là deux attitudes totalement différentes. Ceux qui ont l'habitude d'établir leur légitimité, de la marteler jusqu'à ce que la personne en face d'eux n'ose plus la critiquer, et ceux qui, au contraire, quémandent en permanence cette légitimité.
Oui, mais parce qu'en réalité, je pense que pour une large part, à la fois la jeune garde et une bonne part de LFI depuis que l'aile souverainiste en était chassée, en réalité font partie au sens large du système. C'est-à-dire que leur logiciel idéologique est un logiciel post-national, qui considère que il ne doit pas y avoir de frontières. Ce sont, comme on dit, des no-borders. Et le mouvement Antifa, au niveau international, reçoit des financements de la plupart des grosses associations, type celle de Soros, Open Society, pour ne pas la nommer, pour obtenir ce discours de dilution des nations et dans une sorte de gros espace mondialisé. Et donc... je pense qu'ils ne cèdent pas parce qu'en fait, ils font partie du système, ils savent qu'ils ont des relais. Enfin, la façon quand même dont une chaîne comme BFM et plein d'autres les défendent, tendent à rejeter la faute sur cette malheureuse victime qu'il aurait quand même finalement bien cherché, tend quand même à démontrer à quel point, loin d'être le parti, en gros, des classes populaires françaises, LFI est le parti, voilà, des classes supérieures intellectuelles qui ont fait sécession avec le peuple et avec la nation et qui vivent dans ce monde-là, un monde supranational, au-dessus des contingences que seraient à leurs yeux dépassées, que seraient la patrie, la nation et tous nos attachements, les identités. Ils sont dans le stade d'après. Le monde d'après, il y a plusieurs façons de le faire advenir. Hein. Il y a la version macronienne, ça pourrait être l'ubérisation, la version mélenchonienne, c'est la creolisation, mais en réalité, elles vont souvent... Toutes ces deux projets marchent souvent de concert. Enfin voilà, que des chaînes comme LCI, TF1, c'est-à-dire que le groupe Bouygues, quand même, ou BFM volent à leur secours à ce point, leur donnent à ce point la parole, montrent qu'au fond, il y a une forme d'entre-soi qui ne se limite pas à l'extrême-gauche, comme on le dit. Hein. Je crois que pour définir ce monde-là, l'ensemble de ceux qui sont pour la dilution des nations et leur disparition, en fait, s'entendent malgré peut-être des désaccords sur des questions du type fiscalité. Voilà. Secondaire pour eux, pour les uns comme pour les autres.
Bon, eh bien, ça fait trois fois que j'essaie de lancer le sujet agriculture. Je crois que je vais finir par y arriver maintenant. Merci beaucoup, Xavier Van Lierde. Juste avant, évidemment, on ne va pas envoyer des bobineaux. On va se contenter de lire les messages que nous envoient les auditeurs de Radio Courtoisie. Une auditrice de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, envoie 60 euros. Je vous apporte tout mon soutien pour que vive la liberté d'expression, si indispensable à la victoire de nos idées. Dès que j'allume la radio, toujours sur la fréquence de Radio Courtoisie, je trouve de l'intérêt à vos émissions. Merci de continuer à nous informer et à nous nourrir intellectuellement et spirituellement. Salutations cordiales à votre courageuse équipe. Eh bien, merci mille fois, madame, du soutien que vous nous apportez. Et une auditrice de Cherbourg nous dit, Cherbourg dans le Cotentin, en envoyant 5 euros, je vous félicite grandement pour la qualité de vos émissions concernant tous les sujets, actualités, artistiques, historiques, sociétaux, etc. Vous êtes pour moi une aide formidable pour avancer dans la vie malgré tout ce qui nous entoure. Vous aidez, j'en suis sûr, une multitude de personnes en France et partout dans le monde à garder les pieds sur terre et à conserver un cerveau en bon état de marche. Et ce qui me fait plaisir et me réconforte, c'est de faire partie d'une grande famille, celle des gens lucides. Eh bien, madame, bienvenue dans la famille. Effectivement, vous avez raison. Et merci pour votre don qui permet à cette famille d'exister et de continuer. Le salon de l'agriculture vient d'ouvrir. Voilà, il n'y a pas de bovins à cause de la dermatose nodulaire et surtout à cause du traitement aberrant avec lequel cette dermatose a été menée par le ministère de l'Agriculture. Il y a des régions comme l'Ariège qui ont boycotté ce salon. Ce salon a été aussi l'occasion d'une visite un peu lunaire d'Emmanuel Macron entouré d'une cour réduite et de quelques suivants dont on se demandait dans quelle mesure il n'était pas stipendié avant d'être accueilli par le cuisinier de l'Élysée. Voilà, donc on commence à nager en fait dans une espèce de film félinien, une espèce de réalité alternative où le président pioche dans son stock de figurants et de complices pour mettre en scène des pièces vraiment de théâtre contemporain. On ne comprend pas l'intrigue, c'est assez mal joué et ça fait du bruit. C'était vraiment bizarre. Et pendant ce temps-là, les gens de la coordination rurale avaient des paroles assez fortes qui ressemblaient d'ailleurs au chœur antique dans les tragédies grecques. Ils expliquaient que le roi est nu, ils expliquaient qu'Emmanuel Macron a tort, ils expliquaient qu'Emmanuel Macron ne les comprend pas, ils expliquaient qu'Emmanuel Macron a menti. on se retrouve avec un salon de l'agriculture, en fait, où il y avait 700 mètres carrés de stands avec des startups montrant des robots capables de moissonner tout seuls. Et on en parlait ce matin avec Véronique Lefloc, qui disait qu'effectivement, il y a une pénibilité du travail, mais que cette agriculture numérisée est évidemment une agriculture financiarisée. Et qu'une agriculture financiarisée, ce n'est pas du tout l'agriculture des petites exploitations, c'est l'agriculture que souhaite la FNSEA, qui est évidemment le syndicat qui plaît à tous les ministres successifs de l'agriculture, et à tous les gouvernements et à tous les fonctionnaires, parce que c'est un syndicat progressiste, c'est un syndicat de réforme, c'est un syndicat qui est pour la disparition de la petite entreprise et pour la naissance de gros complexes agro-industriels, ce qui permet évidemment au ministère de l'Agriculture d'avoir peu d'interlocuteurs, et c'est ça que veulent les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, avoir peu de gens à traiter, parce que c'est beaucoup plus simple de traiter avec la FNSEA et le groupe Avril. Je cite les deux, évidemment, puisque le président de la FNSEA est aussi l'un des dirigeants du groupe Avril, parce que voilà, on traite d'un coup 5 à 10% de la production française, plutôt que de s'adresser à Laurent Béchu, qui est en Ariège, plutôt que de s'adresser à Alexandre Moulu, gérant de la fromagerie de la Cestière en Ariège, plutôt que de s'adresser à Marius Fournier, éleveur bovin au GAEC de la Coume en Ariège, voilà, plutôt que de s'adresser à Cyril Santenac, éleveur d'âne. Évidemment, ça c'est compliqué, on est obligé d'aller fréquenter des vrais gens. Donc le salon de l'agriculture s'est ouvert, mais on a l'impression que c'est une espèce de fanfare éclatante autour de la mort de l'agriculture française. Alexis Poulain.
Oui, c'est vraiment à l'image de ce qu'ont été les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, des sortes de quinquennats Potemkin, où tout est mis en scène pour faire croire qu'il y a un président de la République, hein, qui gère en bon père de famille un pays. En réalité, il a massacré ce pays, et là, il va sur les ruines de l'agriculture. On l'a vu, il y a 15 jours, il était sur les ruines de l'industrie, et toujours avec ce même discours, en disant « Ah, c'est des filières, c'est des territoires, c'est des valeurs, c'est formidable », avec un discours totalement autoprogrammé. Une déambulation qui est de plus en plus gonzo à la manière d'Hunter Thompson, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une déambulation hallucinée ou, comme vous dites, félinien, avec cette cour, ces figurants qui sont là et tout un cercle de protection. Il faut 5 couches de protection pour qu'Emmanuel Macron puisse faire semblant d'aller dans un salon de l'agriculture qui a été vidé des agriculteurs. Alors, il y a eu quelques happenings rigolos, hein, d'agriculteurs qui ont fait des lignes comme ça de farine blanche pour le faire venir, faire un appât à Emmanuel Macron.
Cette farine symbolisait autre chose.
Symbolisait tout à fait autre chose, absolument. Et puis, et lui qui était là à croiser des gens. Alors, il y a encore des gens qui jouent le jeu, hein, qui sont contents de voir une star, parce que voilà, ça se résume à ça, le président de la République. Bon, c'est quelqu'un qui est à la télé, c'est un peu le waouh, j'ai fait un selfie avec Macron, mais politiquement. Le message est celui de quelqu'un qui aura fait énormément de mal à la France, qui en est assez fier, et qui joue au président de la République, qui n'incarne pas en fait la fonction présidentielle, surtout pas. Et donc, il y a toujours cette dissonance, ce moment de très gênant en fait, où on se rend compte que ça va pas, que les paroles sont pas raccord aux actes. Je rappelle, dernier sondage IFOP, hein, qui sont pas des complotistes, 82% de Français qui sont insatisfaits de Macron, et score historique, 53% des sondés qui sont très mécontents, et pas seulement mécontents, très mécontents de la politique d'Emmanuel Macron, c'est du jamais vu. Donc on a affaire à un président qui est totalement illégitime en réalité, qui ne tient que parce qu'il y a eu une élection en 2022 où, voilà, je ne sais pas par quel miracle il a pu être élu, ou quelle manipulation, et le voilà qui est là et qui compte bien aller jusqu'au bout. Et ça veut dire que c'est encore beaucoup trop long, en réalité, cette fin de mandat. Et avec le dernier carré, enfin, quand on voit le mini remaniement ministériel, on remplace un macroniste de la première heure par un macroniste de la première heure, c'est le dernier carré de fidèles. On sent vraiment la contraction. Tous ceux qui s'imaginent un avenir politique essayent de faire oublier leur passé macroniste ou de se raccrocher à un nouveau radeau, mais surtout pas de collaborer pour le dernier bunker, puisque c'est ça, c'est les ruines de Berlin. Bon, là, c'est les ruines de la France, et lui va écouter de la musique d'Aya Nakamura avec Brigitte, quoi.
Xavier Van Lierde, ce salon de l'agriculture avec ces agriculteurs qui décident de boycotter ces syndicats comme la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne, qui étaient en théorie de bords politiques opposés, qui finissent par mener des actions politiques communes et notamment des actions de boycott. Comment percevez-vous cette révolte du monde paysan? Est-ce que c'est un peu quelque chose de sans espoir avec des gens qui essaient d'y croire encore alors que tout se ligue contre eux? Et une des paroles qui revient régulièrement dans la bouche des agriculteurs, y compris la FNSA, et c'est ça qui m'a fasciné, c'est « le président parle beaucoup, il parle bien, mais il n'y a rien qui vient ».
Oui, alors je préfère pas parler de la FNSEA parce que je pense que malgré leur caractère très institutionnalisé et très mondialisé, comme vous l'avez très bien expliqué, ils conservent néanmoins une base qui, à mon avis, se fait tirer les oreilles dans les chemins creux et au coin des champs par leurs voisins de la coordination rurale. Donc ils donnent le change de façon médiatique, mais en réalité, je pense qu'ils sont parfaitement complices de... Pour la plupart, je parle pas de leurs adhérents, mais enfin la direction est quand même complice des orientations, et ce depuis des décennies maintenant. Je comprends tout à fait l'idée du boycott du salon de l'agriculture, car en fait il y a un côté, je trouve, obscène et navrant. Je comprends hein, que les producteurs qui sont fiers de s'y rendre, de montrer leur production, ils ont raison d'ailleurs d'être fiers, ils font du bon travail, et voilà. Toutefois, si ce salon de l'agriculture vient masquer de façon épouvantable la disparition de l'agriculture française. Et on dit, le salon de l'agriculture, la plus grande ferme de France, et il y a ce côté rassurant et immuable, c'est-à-dire que malgré, en réalité, la disparition de la paysannerie française, eh bien, il y a toujours ce salon de l'agriculture, mais qui ressemble de plus en plus à ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'un peu factice. Vous avez utilisé l'expression « un village Potemkin ». Bien, c'est le village Potemkin de l'agriculture française. Et il faudrait un électrochoc, Il faudrait qu'une année, en fait, il n'ait pas lieu, parce qu'en fait, les paysans alertent sur le fait qu'ils vont réellement disparaître. Là, on rassure les urbains, parce qu'on trouve ça charmant, bucolique. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu comme la bergerie de Marie-Antoinette, ce salon de l'agriculture. Il représente plus ce qu'il est. Il dit même le contraire de ce qu'il se passe. Parce que c'est beau, il y a de très belles vaches et autres avec lesquelles les politiques se font photographier. Mais ça masque la réalité, qui est celle d'un... Voilà, Houellebecq le disait, le plus grand plan social de France, un plan social silencieux, une disparition lente. Et donc l'absence de salon de l'agriculture, son boycott total, permettrait de le matérialiser et peut-être d'avoir un électrochoc. Car les Français aiment, et à raison, parce que c'est un vieux peuple paysan, même les gens qui ont rejoint la ville se souviennent de leurs racines paysannes. Et donc l'électrochoc serait peut-être salvateur. Alors que là... Il y a un écran de fumée qui est dressé, le salon, il participe, c'est fascinant. Je lisais que maintenant, il y a plus de 80 politiques qui se rendent en délégation énorme, tant et si bien qu'ils ont dû changer le règlement du salon, parce qu'ils sont 80 à s'y rendre à chaque fois, contre 20 ou 30 auparavant. C'est-à-dire, moins il y a de paysans, plus il y a de politiques qui se précipitent au chevet de l'agriculture. Mais c'est odieux et obscène, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est le criminel qui vient au chevet de la
victime.
C'est incroyable.
Ouais. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on n'avait pas de vaches cette année, on n'avait pas d'agriculteurs non plus quand Macron est arrivé. On a simplement des gardes du corps, des compagnies de CRS et un cirque, une espèce de barnum où chaque politique qui a favorisé les politiques européennes de déclassement, de meurtre en fait des agriculteurs sont là pour faire semblant une fois par an de dire qu'ils s'intéressent au territoire, au terroir, à ce métier formidable, alors qu'en fait, ils n'en ont absolument rien à faire, ils ne savent pas de quoi ils parlent, puisque leur vie s'est résumée à environ 2 km² à Saint-Germain, et que de temps en temps, quand il y avait des caméras, on mettait des bottes et on allait faire semblant. Ce qui n'était pas le cas justement, je pense qu'il y a eu une rupture fondamentale à partir du moment où on a laissé tomber la case député-maire et où l'ancrage local s'est évaporé. On voit bien que cette nouvelle génération de députés, ils sont peut-être en circonscription, si on arrive à les voir, mais globalement, on est sur un parisianisme fou et une incompréhension des enjeux du monde agricole. Avec en plus une logique qui est à peu près la même pour tous les partis de gouvernement, plus d'Europe, même si ça veut dire la fin de l'agriculture en France et la fin des exploitations paysannes. Donc la seule chose à faire, ce serait un boycott, évidemment, de grande ampleur. je crois qu'il a quand même eu lieu cette année. On n'a pas vu grand monde, à part voilà, quelques syndicats qui étaient là pour soit faire des happenings, soit rencontrer le président. Mais c'est vraiment une fin de régime, une fin de règne calamiteuse, mais pas seulement d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est vraiment tout un système de la représentativité en France qui est à revoir, et toute une 5e République à bout de souffle. Je ne vois pas comment ça peut continuer longtemps comme ça, honnêtement.
Je voudrais citer un peu longuement un article de France Info, ça ne nous arrive pas tous les jours, parce qu'il a le mérite d'être honnête, ça ne leur arrive pas tous les jours. Quelques jours après les fêtes de fin d'année, une réunion de crise est convoquée au conseil départemental, on parle de l'Ariège. Les 22 ambassadeurs se retrouvent autour de la table pour prendre une décision. On avait tous la parole, chacun pouvait exposer ses problématiques et il y avait une vraie écoute. Se remémore Guylaine Decomble qui fabrique du sambuc, un apéritif fermenté à base de fleurs de sureau. On avait tous la parole, chacun pouvait exposer ses problématiques, il y avait une vraie écoute. On voit un peu la différence avec le grand débat. Après cette discussion, on a tous décidé démocratiquement de ne pas y aller cette année, explique la gérante, un choix accepté par le département et la Chambre d'agriculture. On voit un peu la différence avec la démocratie en France et ce que c'est que la démocratie directe. Et enfin, malgré l'unanimité, cette absence inédite n'est pas sans conséquences, évidemment pour les producteurs. Pour moi, c'est quasiment une cuvée entière qui part, explique Guylaine Decomble. Le but du salon, c'est de me faire connaître, c'est difficile de le remplacer. Pas de regret pour autant. Le salon, c'est un show pour les Parisiens et les visiteurs. On a le cœur trop lourd pour ça. Voilà quelqu'un qui fait un vrai sacrifice et qui décide, en fait, d'être solidaire des autres. Voilà. Contrairement aux politiques qui n'en font jamais. C'était le petit discours sur le salon de l'agriculture, mais on peut enchaîner tout aussi rapidement, par exemple, sur la désindustrialisation, puisque une fois de plus, on se retrouve avec Airbus qui va peut-être délocaliser en Espagne, on se retrouve avec les papeteries Conda qui sont en train de crever. Donc de toute façon, on se retrouve avec un Macron qui a expliqué que en 2017 et en 2022, quelles étaient ses grandes idées pour la France, et nous sommes en 2026. Et on se retrouve, par exemple, avec un niveau de fermeture d'usine qui est celui d'avant Macron. Macron, en 10 ans de règne, n'a pas réussi, en fait, à inverser une quelconque tendance. Et au contraire, par les lois qu'il a favorisées, par les décisions qu'il a prises, par la manière dont il s'est rangé sous l'Europe, a réussi à couler encore plus d'entreprises qu'il n'en avait coulé lorsqu'il était juste ministre des Finances et de l'Économie. C'est-à-dire là, il ne s'est pas contenté de dépecer les grands groupes. Ça y est, maintenant, il attaque toutes les PME-PMI. Xavier Van Lier. Alexis Poulain.
Enfin, oui, mais c'est clairement un mandat de destruction, deux mandats de destruction. On a perdu 10 ans et vous voyez, c'est sa priorité maintenant pour cette fin de mandat, c'est d'installer des lois de censure de la parole publique et des médias. Donc, on ne peut pas laisser faire. Enfin, moi, je ne supporte pas de voir la faiblesse des oppositions politiques face à ce qu'il faut appeler un danger pour nos libertés et un accident démocratique majeur. Emmanuel Macron, c'est un scandale pour notre pays. Tout ce qu'il fait, je mets à chaque fois les gens au défi de me dire est-ce qu'il a fait de bien. Alors les macronistes sortent les JO, c'est pas lui, mais c'est pas grave.
C'était nul.
Et la carte culture et Notre-Dame, c'est pas lui non plus. Donc voilà, donc il y a rien en fait, il y a rien. Et au final, s'il y a quelque chose, ce sont des lois de censure et d'installation d'un proto-État européen qui va décider de qui va gagner l'élection de 2027, parce que c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Donc il faut absolument faire sauter les verrous et dire stop. On va droit vers un naufrage beaucoup plus rapide encore que ce qui s'est passé. Et malheureusement, il a toute l'attitude. Il est en train de placer tous ses obligés à des postes clés et pour des années. Il est en train de verrouiller les institutions internationales au niveau européen également. Christine Lagarde va faire un pas de deux pour le permettre de peser dans le choix du futur patron de la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est insupportable de voir qu'un président qui est désavoué par son peuple a autant de pouvoir en réalité. Il y a vraiment là un dysfonctionnement institutionnel flagrant, grave, qui ne peut pas durer.
Xavier Van Lier.
Ce qui est quand même délirant, c'est à quel point, sous Macron, vous allez me dire que c'était déjà le cas auparavant, mais c'est vraiment une ère de mensonges et où ce qui est fait est parfaitement le contraire de ce qui est annoncé. C'est-à-dire que moi, je suis très tolérant, donc j'ai pu avoir une forme de compréhension pour l'enthousiasme initial pour Emmanuel Macron quand il disait qu'il voulait libérer l'initiative, prendre des mesures en faveur du travail, en mesure de l'entreprise, remettre la France au boulot, tout ça. Je pouvais tout à fait le comprendre, mais en réalité, force est de constater qu'aussitôt élu, c'est exactement le contraire qui s'est passé, même avant son élection. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une forme de tolérance par rapport au discours annoncé, mais les actes sont systématiquement contraires aux mots prononcés, non seulement, parce qu'avant, on avait des politiciens qui promettaient une chose et puis qui en faisaient une autre. Avec Macron, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il continue à prétendre faire le contraire de ce qu'il fait. Et on le voit à la fois en termes de désindustrialisation. Il prétend, avec un toupet absolument extraordinaire et la complicité de beaucoup de médias, que la France se réindustrialise et que c'est formidable cette réindustrialisation. En réalité, le nombre d'emplois industriels est en chute libre et le nombre de grosses PME industrielles qui ferment est absolument inouï. Donc c'est une désindustrialisation massive. Il prétendait lutter contre les normes et les règles qui entravaient le travail et l'entrepreneuriat. C'est exactement le contraire qui s'est produit. On voit, la France n'a jamais croulé sous autant de normes tatillonnes, mesquines et vétilleuses, sous prétexte souvent de sauver la planète, de protéger l'environnement, etc. Et donc, pareil pour le travail, jamais été aussi taxé, et les entreprises de la même façon. Donc, on est vraiment dans un théâtre d'ombre absolument effroyable. Et Alexis disait que les dernières lois qu'il allait faire passer, c'était celles qui visaient à verrouiller le discours. Mais on le comprend, parce qu'en réalité, ce régime ne tient que par un discours. Un discours absolument mensonger. On a atteint des niveaux orwelliens, en réalité, et dans tous les domaines. On a l'habitude de le dire sur des questions sensibles de type immigration ou autres, ou enjeux internationaux, où le mensonge est patent aussi. Mais y compris sur des choses du type quelle est la place du travail, sa taxation, est-ce qu'on aide réellement les entreprises à produire, tout est bidon. C'est vraiment le règne du faux en permanence. Voilà, parce que je ne sais pas si c'est intéressant, mais moi ça m'effare.
En tout cas, c'est senti. Ouais. Oui, c'est effarant. Et vous avez raison de souligner que en fait cet empire du mensonge est absolument sans limite, c'est-à-dire nous ment sur la santé, on l'a vu avec le Covid, on nous ment sur l'état de l'industrie, on l'entend encore avec la manière dont en 2025 Emmanuel Macron se flattait régulièrement de tout ce qu'il avait accompli, on nous ment évidemment sur l'agriculture, le commerce extérieur, la balance du commerce extérieur agricole est déficitaire, c'est clair. D'ailleurs, Véronique Le Floch soulignait ce matin à l'antenne de Ligne Droite que la FNSEA, déjà au 20e siècle, avait fait des projections sur la diminution du nombre d'agriculteurs en France et l'évolution des fermes, et en se félicitant du fait qu'il y en ait de moins en moins et une plus grande capitalisation. La FNSEA, donc, qui évidemment a l'oreille complice de tous les fonctionnaires, est en train de réussir son pari. Je me souviens, pendant le Covid, de Macron expliquant qu'on allait réindustrialiser la France, et notamment avec la pharmacie. Et la manière dont, justement, cette promesse-là, précisément, n'a jamais été faite. On vient de laisser filer Biogarant. Et là, comme ailleurs, en fait, l'État fait tout le contraire de ce qu'il dit, et avec de temps en temps des journalistes économiques qui brandissent des statistiques en expliquant non, ça ne marche pas. Et néanmoins, l'ensemble des politiques, y compris les politiques d'opposition, ne font pas retentir les cris d'un scandale outragé.
Il y a un scandale dans cet ordre d'idée. Il y a un scandale absolument invraisemblable ces derniers jours. Vous savez qu'EDF a sorti un rapport sur le nucléaire et la place du nucléaire en France et les risques qu'il courait, étant donné le plan pour l'énergie qui a été voté récemment, d'ailleurs pas sous la forme d'une loi comme il a envie de l'être, mais sous la forme d'un décret. C'est-à-dire qu'on a aussi court-circuité le Parlement. Et il se trouve que une partie de ce rapport, mettait en cause les dangers que représente le développement des énergies
intermittentes
intermittente pour le parc nucléaire. C'est-à-dire non seulement ce bidule n'est pas rentable en lui-même, mais nécessite des subventions par milliards, mais en plus, il met en danger ce qui fonctionne, en l'occurrence le parc nucléaire, puisque à chaque fois que par miracle, il y a suffisamment de vent pour que les éoliennes produisent de l'électricité, eh bien, il faut simultanément, pour qu'elles ne soient pas gâchées, baisser le niveau de production des centrales, de façon à ce que tout ne soit pas en surchauffe. Et en réalité, une centrale nucléaire, ce n'est pas fait pour être modulée, tant et si bien que ça l'abîme. Non seulement ça coûte cher, mais en plus, ça abîme ce parc et ça obère son avenir. Eh bien, figurez-vous que ce chapitre a été retiré de ce rapport par manigance et ordre du gouvernement. Le même gouvernement qui n'a cessé de nous bassiner avec le cercle de la raison, la science, la rationalité, qui ne cesse d'accuser les autres d'être des populistes qui ont des lubies. Et voilà un rapport fait par des experts d'une entreprise nationale, des experts en nucléaire, et on leur claque le beignet, on leur dit « Non, non, ça c'est sous le tapis, on ne veut pas en entendre parler. » En fait, ce sont une addition de faits extrêmement graves pour les conséquences qu'ils vont avoir, mais aussi sur la façon, enfin ce qu'ils révèlent du fonctionnement de notre démocratie. Nous ne sommes plus du tout aux démocraties. Qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, normalement, la démocratie, ça fonctionne avec l'idée que les citoyens peuvent avoir un vote et une opinion éclairée grâce à des informations qu'on leur donne. Mais si on censure les informations essentielles, notamment celles qui permettent de juger d'un plan de prévisionnel pour l'énergie sur des décennies, ça veut dire que le pacte est absolument rompu. Ces gens ont rompu définitivement toute confiance et tout pacte démocratique. Ils représentent une honte, en réalité.
Est-ce que vous voulez réagir, Alexis Poulain ?
Oui, non, non.
Bah, vous êtes d'accord sur tous les deux, là. C'est pas un vrai débat, on est d'accord. Hein.
Non,
on tape
on
à bras raccourcis sur Macron, mais ça soulage.
Pas sur Macron, sur un système, en fait, qui est à bout de souffle. C'est-à-dire que dans tous ces pays européens où on a eu affaire aux young leaders, et là, je pense aux Pays-Bas qui vont avoir un jeune Premier ministre de 38 ans, très fier d'être gay et qui fait partie de la trilatérale pro-européen, on a à peu près toujours le même profil de responsables politiques, c'est-à-dire des gens qui n'en ont rien à faire de leur pays, et qui sont là par pur affairisme politique, par idéologie aussi, sur cette idéologie européiste, comme quoi cet ensemble technocratique, justement antidémocratique, est une force pour cette caste dite dirigeante. Et effectivement, les populations sont largement dépossédées. Ce que je vois dans les mises en scène que sont les élections, on a affaire finalement à un spectacle. On n'a pas l'impression vraiment d'avoir le choix, de vraiment décider. Quand on voit la façon dont les coalitions branlantes se font, après sa dissolution ratée de 2024, Macron a quand même mis systématiquement des premiers ministres qui étaient capables de gouverner contre l'avis des urnes, puisque l'Assemblée nationale ne fait pas que ce serait M. Lecornu, M. Barnier ou M. Bayrou qui aurait dû être nommé Premier ministre. Et pourtant, ça passe. Alors, ça ne marche pas, hein, vous voyez bien. C'est du temps de perdu, des lois débiles, tout ce que vous voulez. Mais pour eux, ça fonctionne. Voilà, ils gagnent du temps. Alors, je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils gagnent beaucoup trop facilement du temps.
Ils gagnent du temps pour verrouiller, en tout cas, parce qu'ils sont en train de quitter l'appareil d'État avec des affidés.
Ça, c'est sûr.
On est vraiment dans une ambiance un peu saint-simonienne, mais au petit bras, quoi. C'est pas du saint-simonisme avec de l'industrie et de la production, c'est du saint-simonisme à la McKinsey, quoi. C'est-à-dire des gens qui produisent pas, mais qui produisent du papelard. Voilà. Et pour verrouiller le discours et les politiques publiques au profit d'un tout petit nombre. Et c'est là aussi extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que demain, ce qui se met en place, c'est faire en sorte que même s'il y avait une alternance politique qui finissait par émerger dans les urnes, eh bien, on ait une sorte d'état profond tellement monochrome qu'il serait extrêmement difficile pour les gens portés au pouvoir de changer de cap. Voilà, je pense que l'expression « état profond » doit être réellement sortie du magasin de farce et attrape complotiste pour être vue comme une terrible réalité. Terrible réalité d'une technocratie qui n'est même plus seulement une technocratie publique, puisqu'elle est remplie de consultants du privé désormais, mais en fait, c'est la même engeance pour continuer à gouverner contre les souhaits des Français et soumis à une idéologie, parce que ces gens sont aussi des idéologues. Et on le voit dans cette histoire d'EDF, hein. C'est-à-dire que le critère d'appartenance au cercle de la raison, c'est la soumission à une idéologie. Et même des techniciens comme ceux d'EDF qui arrivent avec des faits, sont balayés parce que c'est non conforme à l'idéologie. Parce que les éoliennes, elles, même si elles ne sont pas rentables, même si ça fonctionne pas, et même si ça fiche en l'air les acquis extraordinaires et l'atout extraordinaire qu'est notre parc nucléaire, ça doit être balayé parce que ce n'est pas conforme. Et probablement aussi à quelques intérêts, hein, au passage.
Au passage, et rappelons qu'Emmanuel Macron lui-même a employé l'expression « état profond », donc il avait déjà victorieusement arraché aux griffes des complotistes. Merci beaucoup Xavier Van Lierre, merci beaucoup Alexis Poulain, évidemment vous restez avec nous, et dans cette deuxième partie de l'émission, nous accueillons Céline Kléber.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.